Ouais.
On va s'intéresser à l'anthologie de ce festival Zone Franche 2014 consacré au personnage de Lancelot, et on va voir la multitude de façons dont nos auteurs l'ont traité. On va commencer avec l'éditeur et l'anthologiste, Jérôme Vincent. Comment ça s'est passé? Alors, comment on prend contact
pour... Ça s'est bien passé. Voilà.
C'est toi qui as choisi le sujet, l'a posé, t'a donné des ordres.
Alors, il y a une traduction à Zone Franche, puisque chaque année il y a une anthologie officielle. Marie-Charlotte Delmas souhaitait qu'on la fasse et j'étais très content de la faire, parce que c'est toujours chouette, parce que j'aime bien Zone Franche. Elle voulait une thématique médiévale et moi je voulais une anthologie qui se concentre autour d'un personnage pour qu'on puisse voir plusieurs facettes plutôt que d'avoir des nouvelles complètement éclatées. Et dans la légende arthurienne, je pense que Lancelot est un personnage à de multiples facettes et sur lequel il y a pas mal de choses à dire. Donc une fois qu'on était d'accord là-dessus, il manquait plus que le casting. Donc là, on a vu l'agent de chacun des auteurs, on a négocié des droits, on est parti à Hollywood en séminaire, et puis sur les 32, il en restait simplement 9. Plus Lucie qui nous a fait la post-fast. Non, l'idée c'était de choisir à la fois des auteurs où on avait, on pensait qu'ils avaient des choses à dire parce que la thématique collait particulièrement. Je veux dire que Nathalie ou que Anne soit dans l'anthologie, c'était une évidence. Quoi. On voulait aussi des auteurs qui soient capables de nous faire des pas de côté, comme Jeanne ou comme Karim, parce qu'on savait qu'ils allaient nous faire un pas de côté, qu'ils allaient pas simplement nous raconter Lancelot, Arthur et leurs potes. Quoi. Et puis en même temps, une anthologie c'est aussi l'occasion de travailler avec des auteurs qui nous intéressent mais avec qui on n'a jamais pu bosser. Donc c'est comme ça que Franck, j'avais lu pas mal de choses de Franck Féric et j'avais envie de travailler avec lui, quoi, de voir un peu ce qu'il avait dans le ventre, de gratter. Et puis pareil pour Thomas Géa, ça fait longtemps qu'on se connaît, que je lis ce qu'il fait. C'était une occasion parfaite de bosser. Lionel, déjà travaillé ensemble via Contrepoint. Donc voilà, donc cette anthologie, elle s'est composée vraiment comme ça. Les gens, ça nous semblait vraiment très pertinent, les gens qui pouvaient faire un pas de côté, les gens avec qui on avait envie de travailler, et puis globalement, que des gens où on avait envie de faire une belle anto et travailler tous ensemble.
Et après, c'est carte blanche ou il y a quand même un cadre qui est défini?
Il y avait un cadre, c'était Lancelot, et puis après, oui, ils avaient carte blanche. L'idée étant de dire... vous bossez sur Lancelot, mais enfin, en même temps, je savais qu'ils allaient tous explorer Lancelot à leur manière, donc sous différentes facettes, mais du coup, c'était vraiment pas les brider, mais de voir jusqu'où ils allaient nous emmener.
Et la question vache, ils ne vont pas écouter. Il y a eu beaucoup de travail quand les textes sont arrivés, il a fallu.
Ça dépend.
Taper sur les doigts de certains.
Non, du tout, du tout. On a pris quelques cours de navigation avec certains, mais.
Salope
Non, mais il y a des nouvelles où il y avait un peu de taf, il y a des nouvelles où il n'y avait rien à faire, il y a des nouvelles où ça nous a interpellés sur le personnage même, où il a fallu réfléchir et discuter, et voir comment, si c'était crédible possible ou pas. Voilà, après, je ne vais pas rentrer trop dedans, c'est aussi entre l'éditeur et les auteurs. Quoi.
Mais tu as été surpris justement des points de vue très différents qu'il peut y avoir à l'intérieur, aussi bien au niveau des angles qu'ils ont choisis, mais aussi du regard finalement qu'ils portent sur le personnage.
Oui, alors pour tout dire, les deux premières nouvelles que j'ai lues et relues, c'est celles de Nathalie et d'Anne, donc c'était assez étonnant. Et puis ce qui est vraiment intéressant dans cette anthologie, c'est qu'il y a des nouvelles qui collent plutôt au mythe, et juste après, et puis on va de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'enfance de Lancelot, par exemple, mais on a vraiment le nœud, le point le plus intéressant de...
Je suis pas d'accord, voilà.
Lucie Chenu me contredira.
Un petit peu avec Nathalie.
Mais après, on tire le fil. Et donc, il y a une espèce... On les a classés vraiment par ordre chronologique, quasiment. C'est-à-dire qu'on part du mythe et de la légende, et on tire aussi dans le temps. Et ça, c'était vachement aussi intéressant de voir... OK, et après, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ça, ça, c'était un vrai plaisir.
Avec une interrogation quasiment chez tous, hein, sur qu'est-ce qui reste, finalement, d'un personnage comme ça.
Qu'est-ce qui reste... Enfin, une fois le personnage mort, qu'est-ce qui reste du personnage, du mythe, de la légende, et comment, aujourd'hui... Enfin, quand Jeanne, elle le reprend, tous les combats des nazis. Quelle résonance ça a sur un 20e siècle?
Et on va faire un petit tour en profitant de la présence des auteurs qui sont avec nous. On va y aller dans l'ordre, ça va pas se compliquer en existence, ça sera plus simple. Ça permettra d'être plus clair. On va commencer donc avec Nathalie Do pour Le Donjon Noir. On en est où alors justement quand commence la nouvelle avec ce lancement?
Il vient juste de sortir du lac.
Finalement,
quelque part des eaux maternelles. Et il n'est pas encore tout à fait dans le monde des vivants, puisqu'il ne parle pas. C'est une approche très païenne du monde.
Et son but, sa quête?
Ah, sa quête, c'est de venir protéger Wenwivar, Yeniev. C'est de venir combler le vide qu'elle ressent depuis qu'on l'a plus ou moins obligée à venir dans le monde des hommes.
Il y a dans cette nouvelle une tonalité très proche du conte de fées, j'ai trouvé.
Oui.
C'était une volonté.
Tout à fait. Enfin, du conte et en même temps de la courtise. Je reste extrêmement attachée à la courtise d'Éthène, qui est un texte du corpus irlandais traditionnel. Et ce côté où on se suit, on se retrouve, on ne se quitte pas, peu importe qu'on soit dans le monde du dessus ou dans le monde du dessous. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans mes histoires.
Avec un style très visuel, très coloré.
Merci.
C'est aussi une question, c'est une volonté aussi justement de nous donner à voir.
Je sais pas, en fait mes histoires, je les vois, je les entends, je les sens, les cinq sens, hein, je peux même dire les sons, les odeurs, les goûts, donc j'essaye de retranscrire tout ça, donc effectivement il y a une dimension visuelle aussi.
Et quel regard tu portes alors sur ce personnage de Lancelot?
Mon Lancelot, je l'aime bien parce que je lui fais suivre la voie du dieu corbeau, donc ça m'agrée particulièrement.
Mais c'est un personnage encore en devenir finalement dans cette nouvelle. Est-ce que justement on sent qu'à un moment il va peut-être déjà sortir un peu du chemin qu'on lui a tracé?
Dans mon idéal à moi, il n'en sort pas. Mais après, évidemment, à partir du moment où le mythe se christianise et est emparé, d'autres personnes s'en emparent, etc. Alors oui, ce qui est amour légitime devient amour illégitime et tout ce bon est forcément absolument martyr.
La nouvelle suivante dont nous allons parler est un peu plus guerrier, il faut quand même le dire, puisque ce sera avec Lionel. C'est une question, alors là, tout autre, à quel moment on est de la vie de Lancelot dans ta nouvelle?
Alors, la quête, alors après, c'est toujours un peu difficile de parler d'un moment précis, puisqu'il y a quand même des tas de versions de réécriture, etc., du mythe, donc c'est toujours un peu difficile à cerner, mais en gros, la quête du Graal est lancée, le royaume est en déliquescence. La quête, on l'espère, va sauver le royaume, et la relation entre Lancelot et Guenièvre dure depuis un certain temps. Et on en est au stade où, et ça fait partie, c'est le nœud du texte, l'adultère est découvert, et donc ses conséquences à la fois pour Lancelot, les retombées pour le royaume, et la relation entre Lancelot et Arthur. Et Guenièvre.
Alors justement, là on parlait de point de vue au début, là il y a un point de vue, véritablement. Est-ce que c'est une histoire de trahison, mais est-ce que vraiment le traître est celui qu'on croit?
Alors sans déflorer le texte et le nœud, disons que moi il y a un truc qui m'amusait assez dans ce texte-là et ce que j'ai envie de faire et que j'aime bien dans l'ensemble de le faire, c'est surtout pour une matière comme ça où en gros on la connaît tous à des degrés divers, ou en tout cas on en connaît des représentations populaires, ne serait-ce que Excalibur de John Boorman qui a cristallisé, je pense, pour beaucoup de monde, en tout cas dans l'imaginaire populaire, même encore aujourd'hui, ce qu'on imagine du mythe arthurien. Et donc partir de cette vision-là et essayer tout en ne changeant rien à cette version-là populaire du mythe, essayer de raconter une histoire totalement à contre-pied et justement présenter une autre version des faits, mais qui soit la version des coulisses.
C'est un Lancelot qui reste héroïque, malgré tout, finalement, j'allais dire, envers et contre tous.
Alors, tous dans le texte, ils ont tous une conscience assez aiguë de l'honneur et de ce qu'ils représentent de façon générale, ne serait-ce que pour le peuple qui se tourne vers lui. Ils ont tous à la fois une version assez idéalisée et assez sombre du royaume. Ils se considèrent tous qu'ils sont plus ou moins des modèles d'honneur et de vertu, et donc ils se comportent de cette façon-là jusqu'à l'extrême. Je trouve que le mythe est vraiment traité souvent, ce sont tous des modèles et des personnages qui sont archétypaux. C'était un truc avec lequel j'avais déjà joué dans une nouvelle écriture du mythe arthurien pour touche de Lucie qui s'appelle L'île close. Pour moi, tous ces personnages-là sont tellement archétypaux, on leur a tellement fait faire de choses, j'avais envie de les présenter un peu encore une fois de façon très archétypale, très droite, à tel point qu'ils sont coincés et piégés dans les questions d'honneur, les questions de vertu et les questions d'image. Et dans ce texte-là en particulier, le poids de l'histoire pèse très fort sur leurs épaules. Ils pensent énormément à la postérité, au symbole de chevalerie qu'est la table, et quelle image ils en laisseront plus tard quand le royaume.
Lâcheté aussi.
Oui, oui. Qu'est-ce que c'est qu'être lâche, où est-ce que l'honneur se place, et donc quel écho ils laisseront pour les siècles quand cette génération-là disparaîtra, ne serait-ce que parce que le royaume est en train de tomber en morceaux et que le Graal on l'attend toujours et qu'il n'arrive pas.
Et puis il y avait une volonté de rester, alors pour le coup vraiment dans un cadre qui pourrait être celui d'un récit d'une légende arthurienne, hein, dans le style, dans l'écriture.
Oui, j'avais envie de faire en sorte que le lecteur rentrant dans le texte puisse à la rigueur croire que ce soit dans la forme, de m'amuser à le faire à la façon d'une chanson de geste, mais que à la façon, parce que si c'était écrit vraiment comme une chanson de geste, personne n'aurait pu être capable de le lire parce que ce serait en vieux français, moi j'aurais été pas foutu de l'écrire. Donc, mais essayer de faire un peu une espèce d'illusion dans le style, avoir un truc un peu oral, un peu scandé, avec des dialogues qui sonnent très littéraires, tout en restant assez simple dans le style. C'était pas évident à faire, je sais pas si j'ai réussi à bien le faire d'ailleurs, sans le lecteur de le dire. Mais...
Ça donne un côté un peu austère, mais finalement, c'est agréable. Mmh. On a vraiment l'impression qu'effectivement, d'être dans cet univers, vraiment, on se
rapproche. Merci. Mon but, c'était vraiment qu'un lecteur de 2014 puisse arriver là-dedans, et que ça sonne chanson de geste, mais ça ne peut que sonner, puisque par la force des choses, c'est écrit en français moderne, et que je voulais que ce soit malgré tout accessible. Et que le style soit aussi limpide que possible pour qu'un lecteur de 2014 puisse rentrer facilement. Bon, donc c'était à la manière de, et c'est de donner cette illusion de ce goût-là, sans évidemment écrire en vieux français.
Voilà, la nouvelle s'appelle Le meilleur d'entre eux. Ça a été dur de ne pas avoir Alain Juppé en Lancelot. C'est une très belle nouvelle avec vraiment. Pas rentrer trop dedans pour pas trop déflorer, mais il y a une vraie réflexion effectivement sur la trahison éventuelle ou pas, ou d'autres.
C'est vraiment très difficile de parler de ce texte-là parce qu'en fait, comme je. Rien de ce qui n'est donné ou de ce qu'on croit n'est finalement la réalité, en tout cas dans l'univers du texte, donc c'est très difficile d'en parler sans déflorer ce qui s'y passe.
Anfakouri, le texte s'appelle Je crois que chevalerie y sera. Anne a la particularité que parmi les auteurs qui sont présents ici, c'est peut-être vous qui êtes la plus spécialiste, entre guillemets, de la quête du Graal et des légendes arthuriennes.
Oui, enfin, j'ai fait une maîtrise, effectivement, sur une partie du monstre en prose.
Ça veut dire qu'au moment de travailler sur un personnage comme Lancelot, est-ce que vous vous dites, je vais y aller dans la tradition pure, ou est-ce que je vais mettre mon grain de sel et chambouler un peu tout?
Ben, y a vraiment un cheminement. Moi, je n'imaginais pas toucher au chevet de la table ronde avant de travailler sur une nouvelle pour Lucie dans de Camelot à Avalon, où j'avais exploité le personnage de Kay. En fait, au début, j'ai eu vraiment peur de faire quelque chose d'un peu pénible, avec plein de références. Voilà, j'étais un peu perdue dans mes références. Et puis j'ai fait une première nouvelle très moderne qui se passait pendant la guerre 39-45, donc avec Himmler, la quête du Graal Et voilà, puis finalement, c'était une nouvelle très bien construite, très ficelée, très neutre, et je l'ai foutue à la poubelle. Et je me suis vraiment dit, en commençant mon texte, je l'ai vraiment écrit à la suite comme ça, en me disant, non, finalement, monstre, pour moi, c'est pas ça. Bien sûr, il y a quelques connaissances universitaires, mais il y a avant tout cet émerveillement, la découverte de ce personnage en lisant Steinbeck la première fois vers 8 ans, et tout ce que j'ai vu par la suite. Donc moi, j'ai peut-être la chance de ne pas découvrir Lancelot par John Goodman, par Excalibur. Donc c'est pas du tout ce personnage lisse qui a été transformé par le romantisme. Pour moi, c'est le personnage furieux qui passe de la catalepsie à la frénésie, qui est manipulé par le destin, qui est manipulé par la Dame du Lac, qui est enlevé, qui passe son temps à fuir. Et du coup, c'était difficile de le suivre, lui, surtout que dans la Vulgate, ce qu'on appelle la Vulgate, le roman du 13e siècle, il y a beaucoup de quêtes de Lancelot. On le voit finalement très peu. On voit ses enfances, on voit son arrivée à la cour d'Arthur, on voit après, jusqu'au moment où il va rentrer dans la table ronde, mais après, la plupart du temps, il est recherché, puisque la plupart du temps, il est anonyme. Il est caché derrière différentes armures, voilà. Donc du coup, j'ai décidé d'abord de le faire chercher par Gauvin. Donc on voit Lancelot peut-être sur un paragraphe, sinon c'est
Gauvin. Et
on se demande si c'est lui. J'ai décidé de prendre tous les points de vue, en fait, c'est-à-dire le point de vue de celle qui l'a élevé, le point de vue de ceux qui l'ont aimé, de ceux qui ont cru l'aimer et qui ont cru le voir tel qu'il était. Et c'était une façon pour moi de bien montrer que Lancelot est complètement un objet de fantasme, que lui-même passe son temps à être brimballé, tout le temps. Voilà. Il est dans une dualité permanente entre son côté céleste, son côté terrestre et ce qu'on attend de lui. Et de placer tout ça dans l'univers d'un des romans qui est La Brume des Jours et qui représente pour moi le mieux l'univers du rêve et de l'enfance, parce que je voulais vraiment ce lien à l'enfance et au Lancelot que moi j'avais découvert. En fait.
Et il y a une phrase qui revient 3 ou 4 fois qui est « Que reste-t-il des chevaliers lorsque leur dernier adversaire les a terrassés ?»
Oui, alors ça rejoint un petit peu ce que disait Lionel, puisqu'il y a vraiment cette idée de construire une histoire et de savoir ce qu'on va laisser à l'histoire. Et cette question est posée à Gauvin pendant toute la nouvelle, et il essaie d'y répondre jusqu'à ce qu'il trouve la réponse, évidemment.
Avec, là encore, les points de vue, et donc finalement, des différences assez fortes. Alors, on ne va pas trop en raconter, mais c'est vrai que c'est saisissant de voir à quel point les différents personnages ont un regard très différent les uns des autres sur Lancelot.
Lancelot, ce qui est amusant avec Lancelot, c'est qu'en tout cas, dans les romans du 12e, 13e siècle, est appelé ami par tout le monde parce qu'il est très recherché d'un point de vue social, c'est le meilleur chevalier, jusqu'à l'arrivée de Galahad et de Perceval. Donc il est appelé ami par tout le monde, mais il n'est connu de personne. Il ne s'ouvre à personne. C'est un chevalier très secret. Et du coup, c'était intéressant et très facile de jouer avec les points de vue. La Dame du Lac qu'il a élevée sait que, par exemple, qu'il a quasiment tué un chevalier simplement parce qu'il était en colère. Guenièvre le connaît sous un autre point de vue. Gallo, qui est son meilleur ami, que Steinbeck évidemment a placé dans un rapport d'homosexualité avec beaucoup de finesse et beaucoup d'humour, a un autre point de vue. Et finalement, dans la nouvelle, on voit surtout le point de vue que Lancelot a lui-même, hein, et le plus important, finalement.
Alors moi, j'ai trouvé que c'était paradoxalement, parce que quand on la lit, c'est pas forcément évident. Mais je trouve qu'il y a une chute qui rend la nouvelle à la fois très dure, très violente et presque très méchante.
Plutôt mélancolique, mais comme c'est lié complètement au thème de l'enfance, il y a un côté enfance perdue, histoire perdue. Mais c'était aussi pour exprimer le fait que l'histoire en elle-même ne vaut rien si on s'approprie pas, en fait. Ce qui explique d'ailleurs que c'est une histoire qui a été beaucoup récupérée au 19e et beaucoup transformée, parce que l'université avait une mainmise totale sur ces textes puisqu'ils n'étaient pas traduits, puis que ça a été récupéré après par la fantaisie au 20e siècle. Donc voilà, c'était vraiment le but.
Et alors Lancelot, il faut en penser quoi? c'est notre avis à nous par rapport aux cartes qui nous sont données, ou est-ce qu'il y a presque une définition archétypale de ce qu'est Lancelot?
Mais non, l'intérêt, c'est qu'on en pense absolument ce qu'on veut, puisque c'est le personnage le plus ambigu des chevaliers de la table ronde. Gauvin est vraiment le chevalier terrestre, il n'y a aucune ambiguïté dans Gauvin. Galahad est le chevalier céleste pur, il n'y a aucune ambiguïté dans Galahad. Arthur non plus, et Lancelot est vraiment le personnage ambigu et comme je le disais, celui sur lequel on fantasme, en fait. On peut en penser ce qu'on veut.
Là, on reste un petit peu finalement dans la lignée aussi, dans les questions de postérité et de ce qui va rester, avec une source encore différente et un choix d'épisode encore différent. Et là aussi, avec à la fois la vision, on va dire, de la quête arthurienne elle-même et une vision un peu plus récente inspirée par un grand poète.
Oui, parce que moi, pour mon texte, j'ai choisi de ne pas puiser directement. Les éléments que je voulais mettre dans mon histoire, dans la matière arthurienne réellement, mais plutôt dans deux poèmes de Tennyson, qui sont La Dame de Shalott, et puis un autre poème qui aborde Taliesin en tant que chef des barbes bretonnes, barbes d'Arthur. Et donc j'ai choisi, voilà, plutôt cette. Je ne suis pas comme un très très grand connaisseur de la légende arthurienne, mais c'est plutôt l'aspect poétique, mythe, moi, qui m'intéresse plutôt. C'est une historique.
Alors, qui est la Dame de Shalott?
La Dame de Shalott, alors, dans le poème de Tennyson.
Oui, dans le poème de Tennyson. Dans la nouvelle.
D'accord, alors c'est une jeune fille qui est emmurée par son père, contre son gré, dans une tour. Et c'est une malédiction qui pèse sur la famille de Shalott. Si la jeune fille quitte sa tour, ou si elle regarde ce qui se passe en dehors, par sa fenêtre, directement, la terre va se mettre à la glace, va se mettre, et lui, il risque de fondre. Et donc, pour voir ce qui se passe à l'extérieur de sa chambre, elle est obligée d'utiliser un miroir qu'elle oriente vers l'extérieur. Et tout ce qu'elle voit à l'extérieur, elle le tisse sur une tapisserie.
Et il se trouve que ce qu'elle voit, c'est Camelot.
Ce qu'elle voit, c'est Camelot.
Alors, dans la nouvelle, c'est un Camelot un peu particulier.
Oui, c'est un Camelot qui. Un petit peu comme les chevaliers qui l'habitent, un petit peu délabré.
Des tas
de morts. Ils sont tous pris dans l'île. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour essayer de maintenir Camelot et ce qu'ils sont eux-mêmes le plus gaillard possible, mais ils ont beaucoup de mal. Et donc elle tombe amoureuse de Lancelot malgré tout, comme dans le bon tennis.
Alors il se trouve que cette semaine, on a un petit peu discuté via les réseaux sociaux et je t'ai fait une remarque. Moi, ça m'a frappé tout de suite, c'est que dans l'anthologie de Zone Franche l'an passé, la nouvelle avait pour thème un personnage qui se regardait dans un miroir. Et là, c'est un personnage qui regarde encore à travers un miroir.
Moi, je n'avais pas fait un branchement, je n'avais pas dit, mais effectivement, on regarde, il y a peut-être un truc, je ne sais pas.
C'est
pas voulu.
Non, parce qu'en fait, derrière cette nouvelle, il y a autre chose, il y a justement cette postérité, encore une fois, qui est présente. Alors on ne peut pas, là encore, déflorer trop la nouvelle en elle-même, mais il y a quand même encore ce double niveau de lecture entre ce qui se passe à Camelot à proprement parler et ce que va faire la Dame de Shalott.
Enfin, je ne sais pas, peut-être, en même temps écrire, c'est aussi un petit peu se regarder le nombril, alors peut-être que le miroir, effectivement, pour moi, a une importance particulière, je sais pas.
Là encore, il y a. Justement, il y a une volonté de rester au niveau du style, peut-être plus justement proche des poèmes de Tennyson.
Ouais, j'ai essayé, oui, d'avoir un registre vraiment qui soit pas celui de Tennyson, de toute façon, parce que ça n'est pas ça, mais bon, enfin, quelque chose qui soit couleur locale.
Ouais. Un côté un peu romantique.
Un petit peu romantique, un petit peu rude de temps en temps, oui.
Et puis, comme l'a dit Jérôme, on va se rapprocher de plus en plus de notre époque contemporaine avec Jeanne de Batz. Alors, comme l'a dit Jérôme, il a déjà défloré. Vous nous emmenez en 1936. Qu'est-ce qui vient faire là, Lancelot, en 1936?
En 1936, Lancelot, il ne fait rien, il dort depuis des siècles. Mon héros récurrent, va pagayer longuement vers le couchant pour aller le réveiller en avalon, car il a besoin de lui. pour une mission tout à fait dans les cordes de Lancelot, c'est-à-dire brandir la lance des destins contre un dragon. Moi, j'étais pas l'auteur, a priori, à qui on m'avait demandé des histoires de chevalerie, pour commencer. D'abord parce que c'est pas du tout ma période de l'élection, le Moyen-Âge, ça m'a toujours profondément ennuyé, excusez-moi, pardon. Je sais que je parle devant plein de gens qui adorent ça, notamment Justine, en face. Mais quand tu écris, ça m'ennuie pas, hein. Mais c'est moi, c'est toi qui écris. C'est juste pas possible. Et d'ailleurs, Lucie, pour en témoigner, parce qu'elle avait essayé de me faire écrire dans l'anthologie, alors je sais plus dans quel sens c'était, de Camelot à Avalon ou l'inverse. Et d'ailleurs, Franck, j'avais pensé à écrire sur la Dame de Shalott. Si Lucie s'en souvient, je lui avais promis un truc comme ça, je n'ai jamais réussi. Donc, quand Jérôme m'a dit est-ce que ça t'intéresse, j'ai réfléchi, puis je me suis dit mais si, j'ai la porte d'entrée parce que ce que je vais faire, c'est désinguer les codes. Et ça, je sais faire. Désinguer les trucs, j'arrive très bien. Donc, en revanche, je n'avais pas du tout envie de toucher au mythe lui-même. Lancelot, dans sa propre époque, il est parfait. Et donc, il faut absolument, pour qu'il cesse de l'être, l'en tirer. Ça, c'était la première chose.
Il a le réveil difficile.
Oh, il a le réveil très très mauvais. Mais il faut se mettre à sa place. Quand on dort pendant 1000 ans, le réveil est long. Et surtout, il n'y a pas de café, parce que Navarre n'y a pas pensé. C'est pas son genre. Donc, du coup, en fait, au départ, il apparaît comme un jumeau solaire de mon vampire qui est tout noir.
Parce qu'il faut le préciser, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Navarre...
Ah oui, pardon.
C'est un garçon un peu particulier, lui.
C'est un insupportable adolescent provocateur et iconoclaste. C'est vrai, quoi.
Voilà. Vampire et qui travaille...
Égotique, narcissique...
Et qui travaille pour le Vatican.
Et il travaille pour le Vatican, voilà. Parce que tant qu'à faire, il ne faut pas rester à une contradiction près. Et donc, il se retrouve face à face, l'ombre et la lumière, et très très vite, j'ai joué sur renverser ce rapport et faire en sorte que le dernier chevalier, finalement, ça soit Navarre. Alors, même si c'est un chevalier pas convaincu du tout, même si c'est un chevalier tout à fait contestable, le fait est que Lancelot ne parvient pas à passer la barre à ce moment-là.
C'est une petite nouvelle, presque. C'est une petite nouvelle, il y a un héros et un poulet.
Ah oui, je n'avais pas pensé comme ça. Mais c'est souvent le cas avec Navarre. Il se travaille toujours des gens absolument cataclysmiques.
Il ne sait rien faire, en fait. Il ne comprend rien. C'est encore, à la limite, on peut lui pardonner.
Voilà.
Un peu déphasé. Mais il ne sait rien faire.
Et ben, normalement, si on lui avait donné un cheval, si on lui avait donné la lance, si on lui avait donné le dragon en face, il aurait su. Mais je ne l'ai pas mis dans une situation où il était capable de faire des choses malheureux. Notamment le passage sur grimper la montagne, et il avoue que le pont de l'épée, en fait, il n'est pas super haut, et que les trouvères ont beaucoup menti là-dessus, voilà. Et que lui, il a vertige, en fait. Voilà. Mais même ça m'a amusé parce que ben, les chevaliers, quand ils sont très réussis, quand ils sont trop purs, trop nobles, ils m'ennuient. Et cela dit, il y avait aussi un aspect du mythe qui m'a toujours ennuyée parce qu'il est ressorti plus tard, c'est celui de la pureté. Cette notion de pureté dans laquelle Navarre va aller tout droit et fracasser directement, c'est mon problème avec ce genre de mythologie. Et c'est ça que j'ai réglé avec Lance, en fait.
Sauf que là, on est vraiment, pour le coup, dans la réalisation d'une quête.
Ah,
il y a quand même cet aspect-là oui. Qui est intéressant.
Mais ça ne peut pas marcher si on ne le fait pas dans les
règles. Enfin, elle ne fonctionne pas vraiment, là non plus, la quête.
Ah ben, ils n'ont pas réussi à tuer Hitler, c'est vrai. Mais ils ont le dragon, et ils ont repoussé l'apocalypse, je me demande ce qu'il faut.
Après,
c'est
ça,
je sais pas. Juste pas regarder ce qui se passe
encore. Ça, c'est ce que dit Navarre. Hein. Les troquets enfermés, c'est horrible.
Voilà, vous l'aurez compris, c'est... On entre dans des nouvelles franchement décalées avec celle de Jeanne, et je crois que celle de Karim, elle est encore un petit peu plus.
Alors là, on est carrément à notre époque contemporaine aujourd'hui.
C'est pas grave, de toute façon, les films, on défend les personnages, tu connais.
Ah ouais, parce que c'est moi qui les... C'est moi qui les ai écrits. On est avec des écureuils.
Alors, il y a qui dans cette
nouvelle? Il y a Lancelot, qui arrive un peu sur le tard, et puis il y a son pote il y a longtemps, papa. Donc,
En homme des bois.
Non, pas en homme des bois, mais bon, ça fait un bout de temps qu'ils sont là, ils sont un peu isolés du monde parce qu'ils ont un peu marre d'être sollicités. Lancelot, il a un peu mal vécu la fin de l'histoire. Alors, pour l'histoire, c'est que, en fait, moi je vais vous raconter la vraie histoire de Lancelot, sans rater. Parce que le petit gars, il se retrouve avec une fée au fond de l'eau. En gros, il passe une enfance un peu bizarre. Et cette fée, elle a quand même des idées derrière la tête. Elle lui apprend pas seulement la courtoisie, la bravoure, tout ça. Elle a un projet, elle veut renverser tout cet affreux royaume de. Justement, cette utopie qui est l'utopie courtoise, l'utopie chevaleresque, voilà. Donc il faut balayer tout ça. Et son arme, c'est Lancelot. Et Lancelot sort de là, il est beau, et tout le monde aime Lancelot. Mais tout le monde, hein, pas seulement, comment ça s'appelle, Guenièvre. Arthur aime Lancelot. Arthur est follement.
C'est un gros Lancelot. C'est même pire que ça, parce que c'est Lancelot qui parle de lui-même à la troisième personne. Il a un côté Alain Delon quand même.
Si c'était que ça. Donc, Gauvin est amoureux de Lancelot, mais alors évidemment, les chevaliers ne vont pas avouer qu'ils sont amoureux de Lancelot, même si à l'époque, on ne sait pas de quoi se passer. Je ne sais pas grand-chose sur cette époque. Et donc voilà, Lancelot, ça finit comme ça finit, c'est le bordel. Il fout le bordel dans tout le pays en trompant le roi avec sa femme. On est en 50 000 mecs qui courent après, 50 000 filles qui tombent en pot poison. Le truc, toi qui connais bien cette littérature, ce qui m'a toujours étonné, c'est que toutes les deux pages, il y a quelqu'un qui spamme. Ils arrêtent pas de se spammer. Mais en fait, ils tombent tous dans les pommes. Ils sont là. Ouais, mais ça arrive pour ce moment quand même. Mais enfin, il faut croire qu'ils sont assommés, mais en fait, ils
spamment. C'est une anesthésie
générale
des
pommes. Juste le policier.
Donc,
le jour qui spamme, qui va dans lui.
Donc, enfin, je suis plus long d'été.
Alors, bref, non,
on arrive aujourd'hui où Lancelot va faire traite dans les bois, il s'est planqué avec un peu de vache, parce qu'il a pris des trucs de sa maman. Enfin, de sa fausse maman, d'ailleurs. Et voilà, puis il en a qui est gonflé parce que Gauvin essaie de le rattraper depuis 2000 ans, enfin 1500 ans. Et parce que Gauvin veut le Graal. Parce que Gauvin est persuadé que le jour où il mettra la main sur le Graal, il pourra aller retrouver ses potes sur un char tiré par des cygnes.
Pourquoi pas des
oies? C'est Perceval, mais c'est pareil.
Des écureuils.
C'est Perceval.
Parle des écureuils.
Et donc, il y a des écureuils.
Qui les écureuils, oui. Parce qu'il y a des écureuils dans ce
moment. Moi, je voulais parler d'autre chose. Parce qu'il y a Lionel qui disait qu'il voulait pas rentrer. Il voulait respecter le style médiéval, mais qu'il voulait pas rentrer dans le vieux français. Et toi, ça t'a pas dérangé?
Non, mais. Moi, j'en ai écrit tous les jours des romans en vieux français.
Il a un vocabulaire particulier, Lancelot.
Alors, déjà le truc du vocabulaire, je ne peux pas écrire comme Lancelot a parlé s'il a existé un jour, parce que tout ce qu'on a, c'est la littérature médiévale. Lancelot est quand même antérieur à ça, donc je ne sais pas comment il parlait en latin, je suppose. Donc, oui, il s'insulte, parce qu'à un moment, il se retrouve avec Galade et puis. De Gauvin, pardon. Et il se met sur la gueule.
Ça fait
des siècles qu'ils attendaient ça. Enfin, non, ça donne pas vraiment.
Ça donne un truc du genre, tu es un fou très fourbe, vérolé, point ne me parle de vertu, toi qui n'as jamais eu un poil d'honneur, même dans le four épuant de ton arnus. Tu vas encore te défiler à chaque fois que je parviens à vous débusquer, toi et ta horde ripailleuse de malbestes velues.
Donc, je précise que les malbestes velues sont les écureuils.
Là, en l'occurrence, c'était Gauvin qui parlait.
Ouais, mais Gauvin, il a suivi des cours de formation. Aujourd'hui, ils ont vécu, quoi. Ça fait 2000 ans qu'ils traînent dans la formation.
Jérôme, quand tu as lu la nouvelle de Karim, comment ça s'est passé?
Il m'a effacé de son portable. C'est ça, on a eu du mal à.
En même temps, il est corporate.
Oui.
Parce qu'il fait quand même une promo d'enfer à son propre roman paru aux éditions actuelles.
Alors là, vraiment, mais alors, mais c'est un hasard. Moi, j'étais étonné.
C'est quand même la pire des choses que tu pouvais faire à Karim, ça, le soupçonner d'être corporé. Je crois que tu peux courir vite.
Je crois que c'est des écureuils.
C'est des écureuils.
Alors, excusez-moi, mais il y a quand même un paragraphe entier écrit en italique qui est une bande annonce. C'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui l'écris. J'ai dit en toutes lettres.
Moi, c'était pas dans ma nouvelle, je l'ai découvert tout à l'heure.
Ouais, voilà, vous l'aurez compris, ça démarre assez sérieusement cette anthologie et ça termine dans un feu d'artifice.
En même temps, quand tu connais Karim, enfin, si je lui ai demandé, c'est pas pour qu'il nous fasse un truc en vieux français, je le savais quoi. On s'envoie des mails en vieux français, bien sûr.
Et quand même, Karim, il a écrit un jour La bataille de Mac Turel et ça, c'était, oui. C'était pas un grand délire, c'était c'est juste vrai. Magnifique. Et quand je l'ai reçu, ce texte à l'époque, je me suis dit, ce texte-là, il est sublime. Je ne sais pas si le français d'aujourd'hui est capable de le lire. C'est pas grave, je l'ai publié quand même.
Oui, oui.
Ah, mais c'est pas dans le sens, je ne dis pas que c'est illisible.
Ah, oui, non, mais
c'est juste
que
c'est
simple.
C'est juste qu'on relit ce qu'avait dit Lionel.
Quand tu lis La bataille de Mac Turel, tu as l'impression de lire un texte écrit par un barbe d'autrefois.
Qu'ajouter derrière ça, si ce n'est se tourner vers Lucie. Lucie. Pourquoi écrire une postface plutôt que se joindre aux autres et d'écrire une nouvelle ?
Problème avec les postfaces. Ben en fait, Jérôme avait envie d'une préface parce que j'ai déjà fait 2 ans pour Arthurienne et voilà. Il me croyait érudite sur le sujet. Mais érudite, je ne le suis pas. Et du coup, il m'a proposé oui, une préface, une nouvelle. Et je lui ai dit écoute, nouvelle, j'ai pas vraiment le temps. Préface, j'ai déjà fait les préfaces de mes propres anthologies. Préfacer une anthologie que je ne réunis pas moi-même, c'est pas pareil, je ne suis pas dans le même état d'esprit. Par contre, je ferais bien une postface. Et là, je me suis régalée parce que j'ai lu les textes et je me suis offert le plaisir d'en parler en faisant plein de spoilers. Donc, je l'ai dit, je l'ai écrit, je le redis ici, ne surtout pas lire la postface avant d'avoir lu les nouvelles. Parce que sinon vous allez vous saborder le plaisir, parce que moi je me laisse aller à parler des textes, et ça c'est un vrai bonheur, c'est un bonheur que je peux pas...
Sans avoir en plus la pression d'être l'anthologiste.
Voilà.
C'est
très reposant.
100% de lectrice.
Non, enfin 100%, il y avait quand même la pression du temps, parce que je ne vous ai dénoncé personne, mais il y en a quelques-uns qui ont eu un petit peu de retard. Et j'étais incapable d'écrire le moindre mot tant que je n'avais pas lu tous les textes. Alors d'accord, ça m'a duré dans ma tête, heureusement. Je prenais quelques notes de ci, de là. Mais ensuite, il a fallu faire très vite pour écrire cette postface. Qui n'est pas érudite et qui est pleine de spoilers. Et je peux même dire que j'ai triché en discutant avec certains d'entre eux, et en discutant avec Jérôme, bien sûr. De manière à être sûre de ne pas écrire de conneries, parce que, par exemple, si j'avais écrit des conneries sur la nouvelle Dan, je me serais sentie très mal à l'aise. Je ne vois pas les cacher.
Et en tant que lectrice, le Lancelot, parmi ceux qui sont là, et puis même ceux dont on n'a pas parlé, puisqu'il manque certains auteurs, hein, celui duquel tu t'es sentie le plus proche, plus en phase.
Je ne peux pas dire que je me sois sentie plus proche d'un des Lancelot, parce que, en fait, c'est le même. C'est à la fois un archétype et un être humain qui change, qui évolue, pour le meilleur ou pour le pire, selon les moments. Et il en est d'autant plus touchant. Et ça, c'est un vrai bonheur de lectrice d'anthologie. J'aime beaucoup les anthologies. Et j'aime beaucoup les anthologies thématiques qui donnent vraiment des tas de facettes différentes d'un même thème ou là, d'un même personnage. C'est vraiment une richesse. Moi, je trouve que les nouvelles se renforcent les unes les autres, même quand elles semblent se contredire totalement. Et... Moi, je me suis éclatée, hein. Vraiment.
Bah, moi aussi. J'ai lu ça avec beaucoup de plaisir, avec des auteurs que je connaissais, d'autres que je connaissais un petit peu moins, et ça m'a permis aussi peut-être de découvrir certains pour la suite, avec des nouvelles, on l'a dit, très sérieuses, d'autres qui au contraire partent dans des choses beaucoup plus déliantes, et finalement, bah, voilà, on a quelque chose à la fois d'assez composite et en même temps qui est tout à fait cohérent. J'ai mon mot sur la couverture, parce qu'elle est vraiment très très belle.
Alors la couverture, eh bien, j'y suis pour rien.
C'était pas son domaine.
Eric Hochstein s'occupe de toutes les couvertures d'AQSF. Et donc, on a fait un petit brief sur Lancelot. Je voulais des choses assez classiques. Là, quand même, il a été nous chercher un illustrateur japonais. Et comme Eric ne fait jamais rien comme les autres, eh bien, c'est un Lancelot au féminin. C'est une Lancelot sur la couverture. Et évidemment, on a fait waouh quand on l'a vu. Et donc,
C'est les seins, ça.
Hein? C'est les seins, exactement. Et puis, le délié, et puis voilà. La grosse épée, quand même. Hein, derrière, ça titille. Mais voilà. Donc, c'est une très très jolie couverture. Il s'est vraiment très bien fait. Il nous reste moins de 5 minutes.
Oui. On va quand même citer les auteurs qui sont absents de cette table ronde et qui ont également signé des nouvelles. Fabien Clavel, qui nous emmène avec des dragons dans sa nouvelle. Armand Cabasson, qui lui nous parle du fameux vœu d'oubli. Et là aussi, on se pose des questions sur savoir l'oubli, puisque là, on a parlé beaucoup de postérité. C'est dommage qu'Armand ne soit pas là, parce que lui, il prend un peu le contre-pied. C'est un lanceur qui préférerait qu'on l'oublie, contrairement à certains autres qui étaient là. Et puis Thomas Géa, qui lui revisite le mythe de Lohengrin à travers ça.
Ah bah voilà le signe.
Voilà pour donc les 9 auteurs plus Lucie pour la postface qui sont présents dans cette anthologie. Et toi, Jérôme, alors ton Lancelot favori?
Comment
tu vas dire ça?
Tu veux pas qu'il survive à la table ronde?
À quoi il ressemble? Je les connais tous. Enfin, parfois, je leur prends le dos. Non, par contre, c'est quand même la deuxième fois que chez AQSF on a des écureuils sur 66 livres. La première fois, c'était chez Thomas Day, ils étaient radioactifs et ils avaient des problèmes de sexualité. Donc je suis assez content et je pense qu'on va faire une collection sur les écureuils. Je lance un appel à un projet. Peut-être
des écureuils vampires.
Qui bosseraient pour le Vatican.
Voilà.
Je
garderai les noisettes du Vatican.
Non, mais pour te répondre, en fait, je les aime. Enfin, j'ai passé du temps avec tous ces Lancelots et...
C'était pas forcément ça le sens de ma question, c'était plutôt toi, comment tu le voyais, ce personnage, finalement.
Alors, moi, je ne le vois pas, parce que je suis un garçon très très nul en quête arthurienne, hein. Alors, vraiment mauvais, hein, pour le coup. Mauvais en plein de choses, mais en ça particulièrement, quoi, donc, j'aurais du mal à te dire la manière dont je le vois. C'est aussi, en tant qu'anthologiste, de pouvoir se confronter à un personnage que je connaissais mal ou peu et que ça a permis de le redécouvrir. Et sinon, je trouve génial, hein, le mec qui couche avec la femme du roi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, je veux dire, pour le coup, voilà quoi. Hein. Et il arrive des vocals, pas de bol, c'est quand même.
Mais là, c'est pour me chercher. Hein.
Bah ouais, il m'a un peu cherché. Quoi.
Tu couchais avec la femme de Sarkozy.
Pas de Hollande maintenant.
Laquelle?
Imagine s'il avait un scooter. Quoi. Enfin,
sur ce bon mot qui va nous valoir l'exil, nous allons terminer cette table ronde autour de l'anthologie que vous encourage à découvrir. Parce que voilà, vous l'aurez compris, il y a des textes très différents, une vision très différente à la fois du personnage et des quêtes arthuriennes, et puis également des auteurs, si vous les connaissez, à redécouvrir, si vous ne les connaissez pas, à découvrir. Merci beaucoup.